Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui au cours de laquelle nous allons vous proposer une conférence enregistrée à la bibliothèque de Migennes le 5 février dernier. Une conférence de Marie-Laure Lasvergnas sur l'accueil des enfants assistés en Bourgogne. Marie-Laure Lasvergnas est ingénieure à la Cité des sciences et de l'industrie. Elle a découvert en 1998 le journal de son arrière-grand-père maternel, Mathieu Tamet, directeur de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine de 1896 à 1919. Le journal d'ailleurs de Mathieu Tamet couvre la période de janvier 1910 à novembre 1934. Mathieu Tamet a d'ailleurs été élu maire d'Avalon en mai 1912. Il sera également rédacteur en chef de la Revue de Lyon du 1er janvier 1923 à mars 1924. Évoquer l'histoire de l'accueil des enfants assistés en Bourgogne, c'est une page douloureuse de l'histoire de l'enfance abandonnée, prise en charge par l'État, mais aussi une page de l'histoire économique et sociale de notre région. Marie-Laure Lasvergnas a donc exploité le journal de son arrière-grand-père et dans la conférence que vous allez entendre, cette érudite passionnée d'histoire, qui d'ailleurs ne se dit pas historienne, revient sur les grandes étapes de l'accueil des enfants abandonnés en région parisienne et placés en Bourgogne, notamment dans Lyon, mais aussi dans le Morvan. Sans tarder, je vous propose d'écouter le début de cette conférence. Je voudrais également signaler que Marie-Laure Lasvergnas est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine » disponible chez Publibook. Tout de suite, Marie-Laure Lasvergnas pour cette conférence qui avait pour thème l'accueil des enfants assistés en Bourgogne.
Alors, avant de pouvoir parler des placements en Bourgogne, il faut rappeler schématiquement le contexte historique et la législation en remontant, bon, non pas au déluge, mais au milieu du XVIIe siècle. Avant que Vincent de Paul ne s'en préoccupe, les enfants abandonnés étaient à la charge des paroisses. Les jours solennels, les enfants trouvés étaient exposés à la porte de l'église pour attendrir les fidèles. Ils faisaient parfois l'objet d'un commerce, ils étaient notamment vendus à des mendiants pour provoquer la charité. Ému par ces abus qui avaient pour corollaire une effroyable mortalité, qui mettra beaucoup de temps à diminuer, Vincent de Paul organise en 1638, donc on est à peine au milieu du XVIIe siècle, avec les Dames de la Charité, l'accueil de quelques enfants trouvés. Et en fait, tout de suite, dès 1639, sont posés les grands principes d'organisation d'un service d'enfance à l'aide abandonnée. Pour chaque enfant, on rassemble tous les détails le concernant. Et il y a un règlement qui est établi pour le logement, la nourriture, le trousseau, le recrutement des nourrices, le placement à la campagne, la surveillance, l'instruction. Le nombre des enfants recueillis croît rapidement. À la mort de Vincent de Paul en 1660, donc 20 ans plus tard, la moyenne des enfants recueillis est 316. C'est encore un petit nombre, il est parti de quelques enfants. En 1670, donc 10 ans plus tard, un édit royal institutionnalise l'œuvre des enfants trouvés, lui reconnaît déjà à l'époque un caractère d'utilité publique et lui garantit des subventions. Donc il y a vraiment une mise en place de cette œuvre. Dans le siècle suivant, donc le XVIIIe siècle, on constate une montée vertigineuse des abandons, principalement due à la progression de la misère. Alors je pense que vous regardez, à gauche c'est 1670, et vous voyez à droite 1790. La deuxième moitié, on le voit bien là, la courbe monte très très vite. Le nombre d'enfants dépasse presque toujours 5000, avec des pointes de plus de 7000 dans les années 1770. on monte à 7676 enfants en 1772. C'est le pic que vous voyez. Ce qui est, c'est, il n'y aura jamais autant d'enfants, même un siècle plus tard, au moment de la révolution industrielle. Alors, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel nombre d'enfants abandonnés? On a plusieurs explications. D'une part, les modalités d'abandon se sont élargies. Du temps de Vincent de Paul, la seule solution, si j'ose dire, c'était d'exposer l'enfant, bon, sur un parvis d'église. Au mieux, la personne qui abandonnait laissait un billet indiquant un prénom. On ne parlait alors que d'enfants trouvés, et l'abandon était d'ailleurs interdit à cette époque. Et interdit et puni. Mais progressivement, vers le milieu du XVIIIe siècle, l'habitude s'est créée d'accueillir dans les bureaux de la maison de la couche des enfants apportés notamment par les sages-femmes et dont l'identité est connue, souvent par un acte de baptême. Et alors, je voudrais citer, parce que c'est symptomatique, Jean-Jacques Rousseau, qui à cette époque, au milieu du XVIIIe siècle, écrit, parce qu'il a abandonné quand même ses 5 enfants, et donc il écrit « Puisque c'est l'usage du pays, on peut le suivre ». S'il n'existait pas pour eux un asile, je ferais mon devoir. Donc c'est quand même assez révélateur de l'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde raisonne comme lui, mais on voit qu'il y a une tolérance pour dire que bon, il y a d'autres solutions que d'élever soi-même ses enfants. Une autre explication, c'est qu'il est plus facile d'abandonner son enfant dans la grande ville qu'est Paris que dans des villes plus petites où tout le monde se connaît. À la fin de l'Ancien Régime, donc dans cette partie de la courbe où on voit cette montée, 30 à 40% des enfants abandonnés admis à l'hospice sont provinciaux ou même étrangers, donc plus d'un tiers ou plus. Des circuits de transport d'enfants à abandonner ont même été mis en place vers Paris. Donc ça devient un métier de transporter des enfants. En effet, non seulement des femmes viennent faire leur couche à Paris pour profiter de l'anonymat, et des jeunes accouchés en province confient à des meneurs leur enfant nouveau-né pour qu'il soit abandonné à Paris, avec la mortalité qui est en route, mais même des hospices de province, sans doute pour éviter des dépenses, au lieu de prendre en charge les enfants abandonnés sur place, les envoient par convoi entier à Paris. Claude de Lasselle, dont je vous parlais, qui a épluché les registres d'admission parisiens de l'année 78, en a tiré des éléments très instructifs. Alors là, c'est juste pour situer les villes d'origine. Sur l'année 1778, par exemple, venant de Troyes, il y a eu plus de 100 enfants, dont 84 venaient de l'hospice. 76 venaient de Dijon, de Sens 46, dont 13 en provenance de l'hospice, d'Auxerre 36, dont 30 en provenance de l'hospice, même d'Autun qui est quand même assez loin, vous le voyez en bas à droite, là, 33, Chalon-sur-Saône encore plus bas, 22, j'ai rajouté Langres aussi parce que ça concerne quand même marginalement la région. Donc plusieurs centaines d'enfants en une seule année emmenés à Paris. D'où, pendant cette même année, 1778, d'après Alain Milot, 618 enfants ont été envoyés en Bourgogne. Donc on peut dire que les meneurs rentabilisent leurs déplacements. Et c'est quand même... Enfin, quand on voit la mortalité qu'il y avait en route, c'est idiot de dire ça avec les yeux du XXIe siècle, mais c'est choquant. Enfin, c'est... Bon, il faut voir plus. Claude de Lasselle, toujours lui, a également fait, à titre d'exemple, des statistiques sur les enfants de l'hôtel Dieu d'Auxerre envoyés à Paris sur le XVIIIe siècle. Il constate que ça ne concerne que cette partie 1750-1785, donc toujours la deuxième partie. Et il constate sur ces années-là que le pourcentage d'enfants envoyés à Paris depuis l'hôtel Dieu d'Auxerre est dans les années à partir de 1750, de presque 30%. Et quand on arrive en 1770-1779, c'est un tiers, 33% des enfants recueillis à l'hôtel Dieu d'Auxerre qui sont envoyés à Paris. Ça fait 30 ou 40 enfants par an. C'est énorme en proportion. Ça c'est uniquement pour Auxerre. Alors, si on essaye de réfléchir un peu, compte tenu de la mortalité massive et du fait qu'il arrive à Paris par an, donc entre 1500 et 2500 enfants venant de province, puisque c'est 7000... Enfin, un tiers des 7500 qu'on a constaté, ça veut dire qu'il doit y avoir à peu près 8000 enfants environ qui partent de province chaque année pour être abandonnés à Paris, sur lesquels il en arrive 1500 à 2000, survivants souvent pas pour très longtemps, vu l'état dans lequel ils arrivent, et qui s'ajoutent aux 4500 à 5000 enfants abandonnés nés à Paris. Et de Paris, ces milliers d'enfants sont, dans leur grande majorité, envoyés à la campagne. Donc il y a un grand balai pour le malheur des enfants, dont beaucoup meurent en route, mais propice aux meneurs, évidemment. Puisqu'ils sont payés au départ, les meneurs. Donc ils peuvent rentabiliser leur voyage au fur et à mesure des décès, en prenant d'autres en cours de route. Le bon roi Louis XVI interdit en 1772, il y a un édit royal, cette pratique, mais il est obligé de l'interdire de nouveau en 1779 et de verser de l'argent aux hospices de province pour qu'ils prennent en charge les enfants sur place. Donc ça sera relativement et progressivement efficace quand même. On va en reparler tout à l'heure. La plupart des enfants admis à Paris sont donc placés rapidement en nourrice, à la campagne, à proximité de Paris le plus possible quand même. Et jusqu'en 1670, ils y restent, à la campagne, jusqu'à l'âge de 4 ans. Mais assez rapidement, à la fin du siècle, on retarde leur retour à 6 ans, parce qu'on constate qu'ils se portent mieux à la campagne qu'à Paris, en fait. Et à 6 ans, on les met au travail, sans salaire, jusqu'à leur majorité, qui est de 25 ans à l'époque. Déjà qu'on les a recueillis. Bon. Plus d'un siècle plus tard, c'est-à-dire en 1761, on décidera de les maintenir plus longtemps encore à la campagne, en les plaçant chez des cultivateurs et en versant une pension à ces cultivateurs, jusqu'à ce que les garçons aient atteint l'âge de 12 ans et les filles l'âge de 16 ans. L'objectif est notamment de ne pas les arracher de l'endroit où ils ont commencé à faire des racines. Et ça deviendra un leitmotiv de l'assistance publique, la future assistance publique, c'est reconstituer des racines à ces enfants déracinés. Et c'est seulement à cette période, je parle de 1761, même un peu plus tard, comme nous le verrons tout à l'heure, que les placements commencent très progressivement en Bourgogne. En fait, on considère que c'est à partir de 1774. Donc ce premier plus que siècle n'a pas concerné directement la Bourgogne. C'est la mise en place de certaines pratiques, mais la Bourgogne n'est concernée qu'à partir de 1774. Je voulais vous montrer un beau diplôme de meneur, datant de 1771, rédigé d'une belle écriture. Bon, c'est juste pour le règlement, c'est 1763, la première page du règlement concernant les nourrices et les meneurs. Donc on voit que vraiment il y a une organisation qui est mise en place depuis Saint-Vincent de Paul. Donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, et bien sûr, ce moment est marqué par la Révolution, qui va apporter des changements. Elle va rendre les municipalités et départements responsables, notamment financièrement, de la prise en charge des enfants abandonnés sur leur territoire. C'est une espèce de début de décentralisation. Elle va parallèlement, et ça c'est très important, mettre en place des dispositifs d'aide aux familles nécessiteuses pour les aider à conserver leurs enfants auprès d'eux. Ce sont de fait les débuts de ce qu'on appellera la prévention d'abandon. Le directoire interdit l'abandon en dehors des hospices et il confirme l'envoi rapide en nourrice et le versement de la pension aux nourriciers avec une incitation à scolariser les enfants. Ce qui est sans doute une bonne intention, mais après, pour l'efficacité, c'est autre chose. Et l'enfant, il confirmait que l'enfant reste sous la tutelle de l'administration du lieu d'abandon jusqu'à sa majorité.
L'accueil des enfants assistés en Bourgogne, c'était le thème de la conférence qu'a donnée Marie-Laure Lasvergnas à la bibliothèque de Migennes le 5 février dernier et que nous vous proposons dans sa presque intégralité aujourd'hui sur Radion dans Wagon Livre. Nous marquons, si vous le voulez bien, une première virgule musicale et nous retrouvons notre conférencière juste après. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et c'est Wagon Livre.
Tous mes parents dans ce petit corps renaître, je revoyais leur maison aujourd'hui en démolition et les buildings essayaient de nous la faire oublier. Par quel hasard ce bel enfant a survécu à toute guerre, guerre de Troie, guerre de 100 ans, échauffour et meurtrière, par quelle fissure du temps s'est-il glissé jusque maintenant, défiant la mort, le fer, le vent, Hérode et les tueurs d'enfants. Que le vent souffle d'Afrique, qu'il souffle du nouveau monde, bazooka pampan qui gronde, échapperons-nous, dites-moi, à cette grande razzia. Mon enfant, viens dans mes bras, fais dodo tout contre moi. Elle fait florès aujourd'hui. Le trac du monde se détraque. Je ne sais quelle partie prendre face à la grande mitraque d'un monde malade à pierre fendre. J'essaie vite en cachette avant qu'on ne coupe l'herbette de bâtir une maison sur le sable de mes chansons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Avant de retrouver la suite de la conférence qu'a donnée Marie-Laure Lasvernias le 5 février dernier à la bibliothèque de Migennes sur l'accueil des enfants assistés en Bourgogne, je rappelle qu'elle est l'auteur d'un ouvrage paru chez Publibook et qui a pour titre « Histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine ». Un livre dans lequel elle exploite les 5000 pages du journal de son arrière-grand-père maternel, Mathieu Tamet, directeur de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine de 1896 à 1919. Je rappelle aussi que Mathieu Tamet est devenu le maire d'Avalon en mai 1912 et qu'aux élections suivantes de novembre 1919, il est réélu conseiller municipal, mais refuse d'accepter le poste de maire sans rémunération. Il ne sera pas réélu aux élections de 1925. Mathieu Tamet sera également rédacteur en chef de la Revue de Lyon de janvier 1923 à mars 1924. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur Mathieu Tamet et sur les travaux de Marie-Laure Lasvernias, je vous renvoie à son site internet mathieutamet.com. Comme tout de suite la suite de la conférence que nous vous proposons aujourd'hui sur Radion, conférence consacrée à l'accueil des enfants assistés en Bourgogne, enregistrée le 5 février dernier à la bibliothèque municipale de Migennes. Marie-Laure Lasvernias.
Et nous arrivons au 19e siècle, qui est vraiment celui de la mise en place progressive d'une organisation parisienne très structurée, pendant que la législation nationale évolue, mais... Alors vous allez voir, avec des essais, concluants ou non, qui n'aboutiront qu'au début du XXe siècle. C'est donc une période assez chaotique, disons. Le 19 janvier 1811, un décret confirme la décentralisation sur les territoires de la France de la prise en charge des enfants et confirme que tous les enfants seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. À 12 ans... les enfants mâles en âge de servir seront mis à la disposition du ministre de la Marine. Ça, c'est, on voit que les, bon, on retrouvera plus tard avec les colonies, il y a de la main-d'œuvre à disposition. Pour ceux dont on n'a pas besoin à la Marine, ils seront, autant que faire se pourra, toujours mis en apprentissage. Les garçons chez les laboureurs ou les artisans, les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. Et on ne prévoit toujours pas de rémunération pour l'enfant jusqu'à sa majorité de 25 ans dans le texte, mais de fait, ça sera appliqué avec assez de souplesse dans les départements, donc il peut y avoir quand même une petite rémunération pour l'enfant. Alors, c'est là où on arrive aux essais. Dans le but de diminuer le nombre d'abandons, ce décret de 1811 décide de n'accueillir que des enfants dont l'identité des parents est inconnue, bon, ça sera plus ou moins appliqué, et d'introduire un outil qui marquera symboliquement les esprits, le tour. Alors, vous avez à gauche le tour de Provins et à droite celui de Dreux. En fait, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on sonnait et puis il y avait le tour tournait, on ouvrait la porte devant, on mettait l'enfant, on ressonnait et hop, ni vu ni connu, c'est le cas de le dire. Bon, le tour existait déjà en France, à Bordeaux depuis 1717 et à Lyon depuis 1803, mais il était quand même très peu utilisé. Et il n'a même pas été installé dans tous les départements, où il a été quelquefois supprimé assez rapidement, compte tenu des abus constatés. On cite le cas de personnes qui essayaient de faire entrer un enfant de 14 ans dans le tour. Enfin bon, des choses. Bon, c'est un cas, mais c'est vrai que ce n'était pas. Bon. C'est... Mais en tout cas, partout où il a été installé et où il a fonctionné, on a vu augmenter les abandons. Du coup, globalement, si on regarde sur l'ensemble de la France, les enfants, non pas qu'ils sont abandonnés chaque année, mais ceux, si on fait la somme de tous ceux qui sont à la charge de chaque département, en 1801, on a 63 000 enfants qui sont tous pris en charge, quel que soit leur âge. Ça va monter de 63 à 93 000 en 1817, donc 16 ans après. Sur ces 92 000, il y en a seulement 13 000 qui relèvent du département de la Seine. Donc c'est quand même encore un faible par rapport à ce qu'on verra plus tard. Et le nombre sur l'ensemble du territoire montera à presque 128 000 en 1833. Donc sur une trentaine d'années, il y a vraiment presque un doublement du nombre d'enfants pris en charge sur l'ensemble du territoire. Et en 1833, il n'en sera qu'une faible partie pour la Seine, 16 000. Un autre fait marquant de cette période, du début du 19e siècle, c'est qu'en 1819, les meneurs, jugés trop irréguliers pour payer les nourrices ou de collusion avec elles pour tromper l'administration, ont été remplacés par des agents salariés qui ont été en plus chargés d'organiser une surveillance médicale et de veiller à l'instruction des enfants. Donc il y a une responsabilisation de ces préposés. Et en ce qui concerne la collusion entre meneurs et nourrices, une enquête ordonnée en 1818 avait établi que 11 000 enfants environ, les uns morts depuis plus ou moins d'années, les autres n'ayant jamais existé, étaient portés sur les contrôles et donnaient lieu à un vol évalué à 300 000 francs par an. C'est-à-dire qu'on voit sur les registres, par exemple là, que les meneurs déclarent qu'ils ont confié l'enfant à telle ou telle nourrice, ils touchent les rémunérations correspondantes, ils les partagent avec la nourrice, et à un moment il y a un contrôle, là c'est parce qu'on a voulu changer l'enfant de nourrice, on se rend compte qu'il est mort depuis 3 ans ou même 4 ans, et on rectifie le registre. Et il y a des, pour avoir regardé certains registres, il y a des meneurs qui sont assez bons dans ce genre de manœuvre. On le voit, qui sont les rayures a posteriori. Du coup, on instaure quelque chose qui est aussi très symbolique. Dès fin 1817, le collier, qui sert à empêcher, en principe, les substitutions d'enfants. Et en 1827, une circulaire prescrira le transfert systématique des enfants dans un autre département que celui dans lequel ils ont été abandonnés pour éviter des abus. Certaines mères sont en effet soupçonnées de déposer leurs nourrissons au tour avant de se placer à l'hospice comme nourrice rémunérée de leur propre enfant, évidemment de leur propre enfant. Et c'est aussi pour cela, sur une brève période, entre 1819 et 1831, des surnoms ont été donnés aux enfants, même lorsqu'on l'on connaissait leur nom. C'est-à-dire qu'on essaye d'empêcher vraiment les mères de retrouver leur enfant. En gros. Je reviens aux modalités d'abandon à Paris, où l'usage du tour étant marginal, on continue à utiliser, en règle générale, le système de l'abandon ouvert, tempéré à partir de 1836 par l'interrogatoire du déposant aux heures ouvrables, et de toute façon c'était purement déclaratif, c'est-à-dire que c'était entre 10h du matin et 4h du soir, et bon, on notait ce que disait la personne qui abandonnait. Mais quand même, dès 1837, on instaure un dispositif d'enquête pour vérifier les ressources de la famille qui abandonne, et le résultat paraîtra d'ailleurs dans les dossiers vers le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des formulaires qui sont remplis où on questionne la mère, mais enfin, en général, c'est la mère, mais aussi, on fait une enquête pour connaître ses ressources, depuis combien de temps elle est à Paris, parce qu'il faut aussi vérifier si la personne qui abandonne est vraiment parisienne depuis au moins d'un an. Sinon, on essaye d'envoyer l'enfant dans le département dont il relève. et même à l'étranger s'il vient d'étranger, où on essaye de se faire rembourser par ce département les frais engagés pour l'enfant. Bon, ça occupe beaucoup l'administration et le résultat n'est pas toujours, mais quand même, si, avec les départements ça va, quand c'est à l'étranger c'est un peu plus compliqué. Et parallèlement, on formalise les secours préventifs d'abandon, notamment en 1837. Et ça sera, cette mesure sera encouragée dans toute la France progressivement et officialisée par une loi de 1869. Le résultat, notamment des secours d'abandon et de ces enquêtes, c'est que on voit les admissions pour abandon, diminuer à partir des années 1830, alors qu'elles étaient assez stables autour de 5000 précédemment, et ce jusqu'à la fin des années 1870. Mais avec des variations très importantes. Alors à gauche c'est 1810, les traits verticaux c'est 10 ans en 10 ans. Vous voyez qu'au début ça diminue quand même assez, d'une manière importante, tout en ayant effectivement ça fait des dents de scie qu'on a du mal à expliquer. Le grand creux c'est après la guerre de 70. Fin 1840, on fait un effort pour améliorer le transport des enfants depuis Paris. Et on organise un service de poste, vous voyez à gauche. C'est ainsi que la voiture d'Avallon effectuait le trajet en 27 ou 28 heures seulement, grâce au relais échelonné sur le parcours, ce qui était un gros progrès par rapport aux coches d'eau qui ne naviguaient que deux jours, qui s'arrêtaient toutes les nuits et donc ça prenait plusieurs jours. Et puis ensuite, l'arrivée des chemins de fer améliorera les conditions de transport. Donc, c'est sans doute peut-être avec ces facilités de transport, mais le chiffre de la Seine, c'est surtout à cause de l'accroissement considérable de la population du département de la Seine et de l'admission de nouvelles catégories d'enfants que le nombre d'abandons des enfants dans la Seine sera en augmentation depuis les années 80 jusqu'au début du XXe siècle. Je reviens à ma courbe d'abandon. Mais donc, si on regarde la dernière partie, jusqu'en 1904, on voit que ça remonte à partir de 1800, un peu avant 1880. Là, ça redémarre énormément. Et on peut signaler que, en ce qui concerne les catégories d'enfants pris en compte, l'évolution notable qui a lieu justement dans ces années 80, qui est symbolique, c'est la prise en compte d'enfants de plus de 13 ans. Parce que jusque-là, en général, on ne prenait en compte que des enfants de moins de 13 ans. Il y a eu des exceptions. Mais on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents errants dans les rues. Et le département de la Seine, précurseur en la matière, décide de créer à ce moment-là la catégorie des enfants moralement abandonnés. C'est-à-dire, les parents n'abandonnent pas, mais on considère qu'ils ne sont pas en état de les élever. Ça concernera un millier d'enfants dès la première année d'application. Et le département de la Seine va ouvrir également des écoles professionnelles pour leur proposer au moins une occupation qui les détourne de la délinquance et au mieux une formation. Ça sera notamment l'école d'horticulture de Villepreux devenue le nôtre, l'école d'ébénisterie et typographie d'Alembert à Montévrin, une école ménagère à Yzeure, etc. Enfin, le département de la Seine considère qu'il est gagnant parce que ça diminue la délinquance et ça fait des bons ouvriers, mais quand même, il sera en avance sur la législation nationale, qui ne se calera sur cette législation de la Seine qu'en 1889. Alors, si je reprends ma courbe, regardez-la bien, parce que après, ça n'aura plus la même évolution. On arrive donc au début du XXe siècle à plus de 50 000 enfants pris en charge par le département de la Seine. Donc là, vous avez les nombres d'abandons. Mais si on cumule les enfants de tous âges pris en charge, ça fait 50 000, ce qui représente la moitié de ceux qui sont pris en charge au niveau national, puisqu'il y a à peu près 100 000 enfants pris en charge au niveau national. Donc c'est la Seine... évidemment, c'est la concentration sur les grandes villes, etc., mais la Seine a une part extrêmement importante.
Marie-Laure Lasvergnas, enregistrée au cours d'une conférence qu'elle a donnée le 5 février dernier à la bibliothèque de Migennes, conférence qui avait pour thème l'accueil des enfants assistés en Bourgogne. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous marquons un nouvel intermède musical et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes.
petite paire de chaussures, un ours en pluche, des petites voitures, un train électrique, un cerceau, un fusil en plastique, un mécano. Une poupée qui rit, qui pleure, une ardoise magique, des crayons de couleur, un cheval de bois à bascule, une parure d'Indien avec les plumes. Des magicolores, un sac de billes, une boîte à trésors, un jeu de qui, des petits soldats, des Indiens, des cow-boys et puis un. Petite voiture, de train électrique, de cerceau, de fusil en plastique, de mécano. Pas de poupée qui rit, qui pleure, pas d'ardoise magique, de crayon de couleur, de cheval de bois à bascule, de parure d'Indien, pas de plume. Pas de magie colore, de sac de billes, de boîte à trésors, de jeux de qui, de petits soldats, pas d'indiens, de cow-boys et pas de pantins. Des bulles, des balles, des billes, des bulles, des balles, des billes, ça m'est égal. Et si ça fait trop mal, j'oublie. Et si ça fait trop mal, j'oublie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons sans tarder Marie-Laure Lasvernias pour la conférence qu'elle a donnée le 5 février dernier à la bibliothèque de Migennes et qui a été consacrée à l'accueil des enfants assistés en Bourgogne.
Alors, rappelons que depuis 1811, on a un service national décentralisé, subdivisé en organisation départementale sous la responsabilité du préfet. En plus, en 1848, pour la Seine, La responsabilité du service des enfants assistés a été confiée à la direction de l'assistance publique nouvellement créée, qui a entrepris de mettre en place progressivement une administration très structurée avec des fonctionnaires, des inspecteurs, des commis, des directeurs, donc, sur la deuxième moitié du XIXe siècle. Il faut bien insister sur le fait que le cas du département de la Seine est très particulier. En effet, la plupart des départements placent les enfants dont ils ont la charge sur leur propre territoire. Et la Seine est un cas extrême avec, au début du XXe siècle, 50 agences dans une vingtaine de départements. Donc il faut comprendre que ces enfants sont sous la tutelle du département de la Seine, mais ils sont placés sur une grande partie du territoire. Donc on va maintenant regarder comment ont évolué ces placements. À la fin du XVIIe siècle, les placements se trouvaient surtout en Normandie, en Picardie, c'est-à-dire à proximité de Paris, pour des raisons de transport quand même. Et comme nous l'avons dit, les premiers placements en Bourgogne apparaissent dans le nord de Lyon vers 1775. Ils vont augmenter progressivement et s'étendre vers le Morvan autour de ce lieu. Ils restent bien minoritaires en 1790 par rapport à ceux du nord-est de la France. On voit qu'en 1790, on aura sur 21 domiciles de meneurs, puisque c'est comme ça qu'on repère les zones géographiques, il n'y en aura que 3 pour la Bourgogne, dont pour Lyon, Auxerre et Sens, et Autun en Saône-et-Loire. Et en 1804-1805, c'est l'an 13, la situation est assez similaire, c'est-à-dire que parmi les 27 meneurs, j'ai fait une erreur, c'est 27 et pas 29, qui se partagent le recrutement des nourrices, 5 sont dans Lyon et 1 est en Côte d'Or, à Saulieu, qui restera le centre d'une importante région de placement. En fait, les années 1820-1830, c'est le début du moment, de la période où le Morvan et la Bourgogne deviennent une région nourricière privilégiée. Et c'est le moment, alors 1820, c'est le moment où on crée, alors on dit l'agence, en fait c'est un centre de placement à l'époque, où l'arrondissement, le vocabulaire fluctue. De 1820 à 1830, ouverture de nouveaux centres dans la Nièvre, à Nevers et à Cône. À partir de 1856... Non, je vous ai mis ça, j'ai hésité à mettre ça parce que c'est beaucoup trop précis, mais c'est pour montrer qu'il y a un foisonnement d'agences, de centres de placement, et aussi des évolutions. On voit que les suppressions des placements et créations se multiplient. Et dans cette période, au niveau national, il faut quand même signaler la création d'agences en Bretagne à la fin des années 1850 et en Auvergne dans les années 1860 et 1870. Bon, la Bretagne, ça ne se passera pas très bien et les agences seront fermées assez rapidement. À la fin du 19e siècle, pareil pour la Bourgogne, il y a beaucoup de mutations, mais qui ne correspondent que souvent au déplacement du siège de l'agence. Donc je le mets pour vous montrer qu'il se passe beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas que vous soyez absorbés par ce tableau. 50 ans plus tard, en 1956, donc à la fin de cette grande période, il n'y aura pas énormément de changements. Les tendances vers la fin de la période, c'est que les agences qui étaient beaucoup en campagne glissent vers les villes. Saulieu est remonté à Semur, enfin les placements gérés à Saulieu sont remontés vers Semur en Auxois en 1952, ceux de Saint-Pierre-le-Moutier vers Decize, ceux de Toussy vers Auxerre, quoi. C'est-à-dire qu'on retire un peu et il y a moins de placements également. J'ai refait un petit résumé sur Lyon, un zoom sur Lyon, parce que c'est quand même moins agité. Avallon, fondé en 1820, qui a été dédoublé temporairement, mais globalement, ça est resté agence jusqu'à la fin du dispositif. De 1820 à 1830, il y avait Joigny, Sens et Tonnerre comme centre de placement, mais à partir de 1820, l'agence d'Auxerre est créée. Et après, il y a des hésitations, des balancements autour d'Auxerre, entre Cravant, Toussy et Auxerre. Mais globalement, ça reste quand même ce centre de placement dans la zone d'Auxerre, quoi. Donc Avallon au sud et Auxerre dans le nord. J'ai essayé de faire des évaluations à partir de calculs d'apothicaires que je vous épargne. Enfin, je pourrais en parler si vous insistez. Et j'arrive au chiffre de au moins 200 000 enfants assistés de la Seine passés par la Bourgogne sur les deux siècles de placement, entre 1774 et disons 1970. 200 000 enfants de la Seine. Donc en plus, il y a Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, plus les enfants de chaque département, etc. Donc c'est vraiment énorme.
Marie-Laure Lasvernias, enregistrée le 5 février dernier au cours de la conférence qu'elle donnait à la bibliothèque de Migennes, une conférence consacrée aux enfants assistés accueillis en Bourgogne. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nouvelle escale en musique et en chanson. Et on se retrouve juste après.
C'est moi, Lucie, la paysanne. Mes cheveux sont blancs aujourd'hui. À Comana, dans la montagne, je suis née par un soir de pluie. À 10 ans, j'ai connu les fêtes, les jours noirs, les jours fleuris. La danse qui tourne la tête, ciel qui pleure et soleil qui rit. À Guernévez, dans la montagne, à 20 ans, j'ai pris un époux. Il m'emmenait par la taille avec l'armoire et deux bijoux, un bracelet et 6 assiettes, 12 torchons, 6 draps fleuris. À Guernévez, 3 kilomètres, dans son lit depuis j'ai dormi. À 30 ans, j'étais 3 fois mère, 3 enfants, 7 vaches, un mari, ménage, soupe et vache à traire. Mes cheveux sont blancs aujourd'hui. La lande est rousse et le soir tombe. J'ai vu la mer, j'ai vu Morlaix. Lorsque vous fleurirez ma tombe, versez-y 3 gouttes de lait. Première goutte pour l'enfance, toutes les années jolies. Deuxième goutte pour la patience, le collier des jours et des nuits. C'est pour les femmes la dernière, femme laide, femme jolie. Qui font sans hâte et sans colère un seul voyage dans leur vie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si pour quelque raison que ce soit vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la retrouver via internet sur le site d'archives de Wagon Livre, yannickpetit.fr. Conférence enregistrée le 5 février dernier à la bibliothèque de Migennes. Une conférence donnée par Marie-Laure Lasvernias sur l'accueil des enfants assistés en Bourgogne. Je rappelle également le titre de l'essai qu'elle a fait paraître il y a quelques années chez Publibook, Histoire de l'agent d'Avalon des enfants assistés de la Seine. Et je vous propose tout de suite de continuer à dérouler avec notre conférencière cette histoire des enfants abandonnés en région parisienne et qui ont ensuite été placés en Bourgogne. Les souvenirs d'une soi-disant belle époque où les enfants abandonnés par leur famille connaissaient une véritable déportation en Avalonnais-Morvan où on leur proposait surtout de se reconstruire par le rude labeur agricole. Commis de ferme pour les garçons, servante pour les filles, leur avenir était tracé, ainsi que l'a si fidèlement relaté Marcel Garnier, romancier natif de Carré-les-Tombes, dans l'Yonne, et témoin oculaire qui fit de ses enfants les héros de ses romans, Madeleine d'Orancin ou François Dantin. Sans tarder, retrouvons Marie-Laure Lasvernias, enregistrée le 5 février dernier à la bibliothèque de Migennes.
Alors là, je vais vous citer les écrits des inspecteurs de la Seine à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Par exemple, l'inspecteur Favre, dans son rapport de 1913, « Économiquement, c'est la petite propriété qui domine en créant pour nos enfants un milieu extrêmement favorable. Culture de céréales et de plantes fourragères, élevage, coupe de bois sont presque exclusivement les sources d'activité de la région. » La terre y est fertile, les pâturages de bonne qualité, d'où aisance générale. Les habitations, un peu partout reconstruites, sont saines, aérées, claires. La population, intelligente et d'esprit éveillé, en rapide progrès, se conforme très volontiers aux directions données et se laisse manier très facilement, à la condition qu'on y mette les formes et du doigté. C'est tout le boulot du directeur d'agence. Les qualités et les avantages de cette région pour le placement et l'élevage de l'enfance abandonnée ont été si unanimement reconnus que le département de la Seine s'y trouve en concurrence avec les services des départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, sans compter celui de Lyonne et aussi les bureaux de placement privés. En fait, la lecture des rapports d'inspecteurs fait apparaître que les éléments favorables sont le statut de petit propriétaire de beaucoup de familles, la taille relativement réduite des familles, qui favorise le premier objectif de l'assistance publique, c'est-à-dire la prise de racine des enfants, qui restent souvent de 3-4 ans à 21 ans dans la même famille. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à trouver dans d'autres régions. Il y a des écoles à quelques kilomètres, mais presque partout, et des routes ou chemins qui y conduisent, favorisant un des autres objectifs, c'est-à-dire assurer la scolarité des enfants pour qu'ils se fassent plus facilement une place malgré leur handicap de départ et de n'avoir ni sous ni famille. Et enfin, on est à une distance raisonnable de Paris et il y a une bonne desserte ferroviaire. Et puis il y a aussi une habitude de relation entre la Bourgogne et la région parisienne. Pour revenir sur cette densité de population, parce que ce qui est massif, j'ai essayé de faire des calculs. En 1902, dans l'agence d'Avalon, qui couvre aussi le secteur de Carré-les-Tombes, donc c'est l'extrême sud du département de l'Yonne, on a 2000 enfants pour la Seine. Si on ajoute, d'après les témoignages, les enfants placés par les départements de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, et de Lyonne elle-même, on atteint à ce moment-là un chiffre d'au moins 3500 enfants placés dans ce secteur peu peuplé. C'est d'autant plus impressionnant que les enfants sont surtout placés dans les hameaux, puisqu'ils sont plutôt chez des cultivateurs. Et ils s'y retrouvent majoritaires par rapport aux enfants de famille. Les témoignages d'instituteurs, c'est que de la moitié à trois quarts de la classe, ce sont des enfants d'assistance publique dans les hameaux. Donc c'est vraiment... ça change la vision même de la famille. Alors, maintenant, je vais vous amener sur les pas de Mathieu Tamet, mon arrière-grand-père, dirigeant l'agence d'Avalon. Donc le personnel de l'agence, c'est Mathieu Tamet. Il a en tout et pour tout un commis et une surveillante de convoi qui s'occupe aussi du dépôt, où les enfants sont placés temporairement en attente de placement pour travailler. Le Conseil général de la Seine fixe les modalités de contrôle. C'est-à-dire qu'il précise la fréquence des visites médicales de tous les enfants, plus ou moins espacées en fonction de l'âge. Le directeur doit visiter, ou son commis éventuellement, doit visiter chaque placement 4 fois par an. Il y a des inspections, c'est-à-dire un inspecteur qui vient de Paris au moins 1 fois par an. Et le nombre de nourrissons que les nourrices doivent aller chercher mensuellement à Paris est également fixé. Donc ça, c'est l'organisation administrative. Et pour cette période-là, c'est en 1900, c'est 4 par mois, fin 1900. En fait, l'administration est bien obligée de constater qu'elle n'arrive pas à atteindre les objectifs en matière de nourrices, et ce, depuis longtemps. Un inspecteur parle en 1910 de recrutement difficile de longue date, et ça revient régulièrement dans les rapports. Cette raréfaction générale des nourrices pour les enfants d'assistance publique est imputée à des causes variées, comme les contraintes de l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les enfants à Paris et les ramener. C'est un des plans. Bon. La diminution de la natalité, l'exode des jeunes ménages vers les grands centres, l'abandon de l'allaitement naturel et aussi la concurrence des bureaux de recrutement privés et des particuliers qui offrent de meilleures rémunérations. Et dans le Morvan, cette pénurie est aggravée par l'excellente réputation des nourrices du Morvan qui partent se placer dans des familles bourgeoises. Donc, constatant cette pénurie de nourrices, les autorités décident de l'officialiser et de ne plus placer à cette époque-là de nourrissons à Avallon, de les mettre en Normandie ou dans le Nord, où on trouve alors moins difficilement des nourrices. L'agence d'Avallon sera réservée au placement des enfants sevrés, car on y trouve de très bons placements. Les enfants y restent jusqu'après leur majorité et trouvent donc une stabilité qui leur permet de prendre racine, ce qui est un des objectifs de la science publique avec la scolarisation. Et on décrète qu'Avallon est une agence de placement d'avenir, comme Ébreuil, Lorme ou Saulieu d'ailleurs. L'inspecteur Delon en 1911... consigne l'enracinement des enfants. Il dit « Les enfants de 2 à 13 ans sont profondément aimés. » Bon, c'est aussi parce qu'ils travaillent dans les chambres. « Et jouissent de l'estime générale. Ils entrent dans les familles tout jeunes et n'en sortent la plupart du temps que pour se marier et s'établir à leur tour dans le pays. À notre époque où les populations rurales ont une tendance marquée à se ruer vers les grands centres industriels et commerciaux, les résultats signalés ci-dessus sont absolument remarquables, non seulement en ce qui concerne le service de l'assistance publique, mais aussi au point de vue plus élevé de la prospérité et de la richesse de notre pays. Et en 1913, un autre inspecteur ajoute « Plus tard, au départ du service, il est fréquent qu'il retourne dans l'agence, qu'il s'y marie avec des filles du pays, qu'il s'y établisse et devienne à leur tour de petits propriétaires aisés. » Bon, ça c'est la vision idyllique de l'administration. Hein. Bon, c'est la vision de l'administration. Et Mathieu Tamet, qui est dans son boulot de directeur, va dans ce sens. J'ai sélectionné 2 exemples. En 1910, j'ai déjeuné pour 2,50 francs chez la veuve Valta à Cordoie, qui ne me semble pas une excellente cuisinière, mais qui, en tout cas, est une brave et digne femme, quoique un peu bavarde. Ça, c'est Mathieu Tamet, langue de vipère. Il y a chez elle une ancienne pupille, Marguerite Souquer, qui a 23 ans et qui y est depuis l'âge de 15 mois. Aussi est-elle aussi maîtresse que la patronne. Et un autre exemple, toujours la même année, vu monsieur, je ne dirai pas le nom, il parlait avec attendrissement des anciens pupilles qu'ils ont élevés, puis gardés comme domestiques. Ce sont de bien braves gens, bons propriétaires, sans morgue et sans préjugés, de bons parents pour nos enfants, qui sont reçus chez eux à bras ouverts. Quand ils sont au régiment, il leur envoie quelques pièces de 5 francs et plus tard, il les aide à s'établir. Bon. Encore une fois, c'est la vision du bon côté des choses. En tout cas, on sait qu'une pension est versée aux nourriciers jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 13 ans, puisque c'est la fin de la scolarité obligatoire. Et pour les petits exploitants, c'est un moyen de compléter les maigres revenus tirés de la terre. Ça, c'est constant jusqu'au moins 1950. Et les rapports d'inspection notent que ce sont des enfants très demandés, surtout les garçons de 8 à 12 ans, car évidemment, ils rapportent un peu d'argent et de plus participent aux travaux. En 1909, Mathieu Tamet note qu'il a plus de 300 demandes qui datent pour certaines de 4 à 5 ans. Donc c'est vraiment. En 1913, l'inspecteur Favre signale que les demandes toujours sont extrêmement nombreuses. Enfin, il note la même chose. Néanmoins, en principe, jusqu'à 13 ans, l'instruction est obligatoire et c'est une préoccupation essentielle de l'administration puisque la bouée de secours des enfants pour arriver à quelque chose dans l'existence. Depuis 1882, de toute façon, c'est une obligation pour les élèves de 6 à 13 ans. Et la présence massive des enfants des sciences publiques va amener à la création de nombreuses écoles de hameaux, écoles qui seront fermées dans la deuxième moitié du XXe siècle lorsque le nombre de ces enfants diminuera. Par exemple, en 1897, un inspecteur note « Une école de hameaux depuis longtemps demandée a été créée à Culêtre. Elle desservira trois villages dont les enfants étaient jusque-là obligés de faire 5 km pour se rendre à l'école de cure. » Donc il y a une pression et on voit les écoles fleurir dans des endroits qui sont maintenant assez isolés. Lorsque les enfants atteignent l'âge de 13 ans, il n'y a plus de pension des sciences publiques, sauf exception comme poursuite de scolarité ou infirmité. Mais les enfants continuent à être suivis par le directeur d'agence qui a toujours remplace la puissance paternelle en fait. Et la préoccupation des sciences publiques alors est de mettre ses enfants au travail avec la meilleure rémunération possible et de surveiller leurs conditions de travail. Alors, il faut noter que, par exemple, dans la Vallonnais, pour faciliter le placement, des louées fonctionnaient à Avallon, Carré-les-Tombes et Vézelay. Et certaines ont fonctionné jusqu'à la Deuxième Guerre. Les gages sont versés en partie sur le livret de caisse d'épargne des pupilles, mais une grande partie est censée être consacrés à leur habillement et à leur entretien. Et il faut veiller à ce que le patron ne rogne pas sur ses prestations. Il y a un inspecteur en 1896 qui dit « L'assistance publique a fait la fortune du pays. La pension d'un élève en pension, c'est-à-dire de moins de 13 ans, sert à financer les gages d'un hors-pension, donc de plus de 13 ans, et son entretien. » Néanmoins, en 1910, l'inspecteur Jalabert nous confirme sa vision de la solidité des relations qui se nouent en règle générale entre enfants et nourriciers. Il constate qu'en 1909, plus de la moitié des enfants qui ont atteint l'âge de 13 ans ont été gagés chez leurs nourriciers. Et ça, en 1913, on dira 61%. Et ça reste une constante dans les rapports d'inspection. Ce fait que les enfants, qu'il y a une transformation, c'est-à-dire que même quand il n'y a plus de pension payée par l'assistance publique, les enfants restent en grande partie dans la même famille. Donc c'est vraiment le but de créer des racines. Et même lorsque les enfants ont atteint leur majorité, les directeurs doivent leur servir de référence. Et ils sont associés au mariage, quelquefois c'est eux qui donnent l'autorisation, au deuil, ils interviennent pour trouver du travail aux anciens pupilles et leur faciliter la vie. Même après sa retraite de l'assistance publique, Mathieu Tamet est encore contacté par d'anciens pupilles et continue à intervenir pour eux. Par exemple, en 1920, il note « Reçu la visite de M. Baudon, inspecteur du PLM, donc le chemin de fer, qui m'a donné des tuyaux pour placer deux anciens pupilles au chemin de fer. » À partir de la Première Guerre mondiale, la nature des placements commence à changer. Il s'agit de plus en plus de placements temporaires. Alors là, on voit très plein les placements permanents qui dégringolent entre 1904 et 1952 et en pointillé la courbe des placements temporaires qui croît et qui devient la règle. Et parallèlement, l'adoption qui n'était autorisée que pour les majeurs jusque-là est autorisée pour les mineurs en 1923. Donc elle fait une apparition timide. C'est-à-dire que, alors vous voyez sans doute pas grand-chose, mais il y a quelques centaines d'adoptions qui apparaissent à partir de 1924. Bon, c'est pas encore très important, mais c'est une nouveauté, puisque ça devient possible. Moi, j'ai vu des cas de nourriciers qui attendaient que l'enfant dont ils avaient été en charge jusqu'à l'âge de 13 ans, puis ensuite qu'ils avaient pris comme salarié, ils attendaient que l'enfant ait atteint sa majorité pour demander à l'adopter et pour pouvoir le faire hériter. Bon, c'est des cas particuliers, mais c'est vrai que ça existait. Bon, et pour terminer rapidement, à partir de 1961, le service va prendre le nom d'aide sociale à l'enfance, et à partir des années 1980, le département de Paris décide de fermer progressivement ses agences éloignées de plus de 200 km de Paris pour maintenir les enfants au plus près de leur famille d'origine, puisqu'il y a de plus en plus de placements temporaires. Et pour la Bourgogne, donc les agences restantes, c'est Auxerre et Sens à cette période. Donc voilà, les quelques éléments que je viens de vous exposer rapidement avaient pour objectif, en plus d'un historique très simplifié, de donner une idée des caractéristiques de placement des enfants assistés en Bourgogne, notamment dans le Morvan, c'est-à-dire l'importance numérique de ces enfants, qui apportent des modifications même du paysage ou du fonctionnement, comme la création des écoles de hameaux, la mise en place des louées, Une autre caractéristique est le séjour prolongé de la majorité de ces enfants dans les mêmes familles de leur enfance à leur adolescence, qu'ils amènent à trouver des racines dans la région ou même à s'y fixer. En Morvan, comme l'ont souligné des auteurs comme Anne Cadoret et Monique Ponto, les liens du lait peuvent être aussi importants ou même plus que les liens du sang. Moi, je dis en matière de plaisanterie que je vois plus souvent ma petite cousine de lait que ma famille de sang. Voilà. En vous donnant mes principales références, je vous remercie pour votre attention.
C'était Marie-Laure Lasvernias, enregistrée lors d'une conférence donnée à la bibliothèque de Migennes le 5 février dernier et qui a été consacrée à l'accueil des enfants assistés en Bourgogne. Une conférence absolument passionnante, très documentée, mais vous pouvez approfondir le sujet en vous plongeant dans l'essai qu'a rédigé Marie-Laure Lasvernias, c'est chez Publibook, Histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine. Elle a exploité les 5000 pages du journal de son arrière-grand-père maternel, Mathieu Tamet, qui fut donc directeur de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine de 1896 à 1919. Je précise aussi d'ailleurs que Mathieu Tamet a été maire d'Avalon de 1912 à 1919, donc notamment pendant la Grande Guerre. Je rappelle aussi qu'on ne peut que vous encourager à découvrir le musée des nourrices à Aligny en Morvan, c'est dans la Nièvre. Et puis, je vous donne pour ma part rendez-vous samedi prochain, 26 février. Nous serons avec le romancier et chroniqueur littéraire Éric Neuhoff, qui vient de faire paraître un nouveau roman chez Albin Michel qui a pour titre « Rentrée littéraire ». Je ne serais pas complet si je ne remerciais pas Mélanie Michaud de la bibliothèque de Migennes pour son accueil et pour l'enregistrement de la conférence, et bien évidemment toute ma gratitude à Marie-Laure Lasvernias qui nous a autorisé à diffuser dans Wagon Livre sur Radion sa conférence. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.